Notre invité est arrivé, il s'appelle François Pont. Est-ce que vous avez choisi ce nom, Monsieur Pont, pour vendre votre livre?
Non, absolument pas. On dira que c'est un heureux ou un malheureux concours de circonstances.
Alors, François Pont est journaliste indépendant. Il publie, et on vous en parle pour plusieurs raisons, parce que c'est la première fois qu'il est publié ici. C'est une remise en état d'un guide que vous aviez déjà présenté, Monsieur Pont.
Absolument. En fait, il y a une version qui était beaucoup plus légère, édulcorée, qui est parue 2 mois avant les attentats du 11 septembre et qui a été éditée par une boîte d'édition en France, avec laquelle j'ai négocié par la suite en fait une réactualisation du livre dont les sujets traités, en particulier les adresses, les compagnies de croisière. Il y avait eu beaucoup de mouvements suite aux attentats du 11 septembre, comme dans le monde du tourisme en général. Et comme il y avait un nouveau propriétaire, si vous voulez, de cette boîte d'édition, on n'a pas pu avoir un accord. Donc j'ai récupéré les droits de mon travail, je l'ai redéveloppé, j'en ai fait un livre de 256 pages, entièrement réactualisé, et je l'édite moi-même. Donc c'est un livre en fait qui est assez difficile, même en France, à trouver. Au Canada maintenant, c'est facile de le trouver puisque Ulysse me distribue, mais en France, je le vends plus ou moins directement, et ça marche assez bien. Et je suis assez étonné de l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces métiers qui font rêver.
Est-ce que ce sont des métiers, vous dites, ce sont des métiers qui font rêver, cuisinier à bord, photographe, masseur, chanteur, barman, maintenant les bateaux de croisière qui redeviennent très nombreux sur les routes et sur les mers ont des besoins. Alors donc, on a toujours vu ces métiers en disant « oh, je pourrais jamais » ou « ah, ça marcherait pas » ou « alors il y a si peu de place », mais là, il y a de la demande.
Effectivement, c'est un secteur du tourisme qui s'est fortement développé. On estime les bateaux actuellement à 300 unités qui naviguent avec beaucoup de méga ships, c'est-à-dire de très gros bateaux qui ont été construits récemment, qui peuvent recevoir 3000 personnes à bord. Alors il y a toujours des bateaux à taille humaine, mais c'est un secteur quand même très très dynamique. Alors c'est vrai qu'à l'origine, c'était surtout la clientèle américaine qui appréciait ce type de croisière dans les Caraïbes. Les unités sont déplacées un peu partout dans le monde et touchent d'autres marchés, en particulier par exemple le marché européen. Donc on a beaucoup plus de navires en Méditerranée, ou d'ailleurs des bateaux qui se déplacent, hein, l'hiver, je parle par rapport aux Européens, l'hiver les bateaux partent dans les Caraïbes, l'été ils sont au large de la Méditerranée.
Ça a l'air tout ça a l'air d'être merveilleux, c'est presque des vacances. Est-ce que c'est ça?
Absolument pas. Et en fait, vraiment, je ne vends pas de l'eau turquoise dans le livre. L'histoire, en fait, que j'ai un petit peu raconté à votre collaboratrice, c'est que moi, je suis diplômé de l'école hôtelière avant d'avoir fait des études de journalisme. Et à l'issue de mes études hôtelières, j'ai voulu partir sur un bateau de croisière et j'ai eu beaucoup de déconvenues.
Oui.
À l'époque, il y a une dizaine d'années, il y avait des cabinets qui recrutaient, qui se commissionnaient sur les jeunes qu'ils envoyaient sans avoir de garantie véritablement sur la sélection, sur le profil des postes, etc. Moi, je n'ai jamais réussi à partir. Je me suis toujours dit, un jour, je ferai un livre où je donnerai les bons plans, les bonnes pistes pour réussir son départ et pour ne pas vendre de l'eau turquoise. Et en tout cas, c'est ce que je fais dans le livre. Je donne tous les plans pour éviter surtout les eaux troubles, en fait, qui se sont, il faut quand même le reconnaître, raréfiés. D'une part, parce que les conditions de vie à bord des bateaux de croisière sont beaucoup améliorées ont beaucoup évolué avec l'amélioration de la flotte. Il y a beaucoup de bateaux nouveaux, récents, qui ont été rénovés. Et dans l'architecture de ces bateaux, on a pris en compte l'avis du personnel à bord, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et ces fameux cabinets de recrutement qui recrutent en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, maintenant ont une obligation de résultat, c'est-à-dire que les candidats qu'ils envoient sur ces bateaux de croisière doivent rester un certain temps, en général 2 mois, pour qu'ils touchent leur commission. Si le candidat part au bout d'une semaine ou de 15 jours, ils ne touchent pas leur commission. Donc maintenant, ils sélectionnent beaucoup mieux les gens qui font partir, et en tout cas, ils leur disent vraiment ce qui va se passer sur le bateau. Et ce qui se passe sur le bateau, c'est pas des chaises longues, c'est pas du farniente, c'est pas les couchers de soleil. Ça peut être ça sur certains bateaux d'une certaine manière, mais c'est beaucoup de travail. Mais ça dépend des métiers.
Oui. Mais alors, est-ce que c'est un peu le genre des... Nous, à l'époque, on croyait que les géos des clubs Med étaient des gens qui étaient toujours étendus au soleil et qui chantaient ou les mains, mais ils travaillaient très dur. Est-ce qu'on peut comparer ça aux géos des clubs Med?
Par exemple, le Club Méditerranée exploite un bateau, qui est le Club Med 2, je crois. Et ça pourrait être un petit peu ça à bord, parce qu'en fait, les personnels, les serveurs, les cuisiniers, les pâtissiers, les animateurs, tout le monde est en boîte de nuit avec les clientes le soir.
Oui.
Et ils se font même engueuler s'ils vont pas danser avec les clients le soir. Alors que sur la plupart des autres compagnies, le personnel a une zone du bateau qui lui est réservée, il n'a pas le droit de croiser les zones des clients, il est complètement séparé des clients, il doit garder une certaine distance avec la clientèle, donc c'est pas du tout olé olé, quoi.
Oui.
Ce qu'on essaye aussi de faire dans ce livre, c'est de décrypter un milieu qui est composé de singularités. C'est-à-dire que d'une compagnie à l'autre, il y a d'énormes différences, mais au sein même d'une compagnie, il y a de grosses différences d'un bateau à l'autre. Donc c'était pas évident de dégager des grandes lignes. Si vous partez sur le club Méditerranée, c'est sûr que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, mais vous risquez de bien vous amuser. Si vous partez sur la Disney Cruise, vous gagnerez peut-être pas énormément d'argent non plus, mais vous allez beaucoup vous amuser, et ils ont très peu de turnover, les employés restent. Si vous partez sur la Royal Caribbean International, vous allez peut-être pas beaucoup vous amuser, ça c'est sûr, mais vous allez gagner de l'argent. Si vous partez sur la Compagnie des îles du Ponant, l'ambiance est très stricte à bord, la clientèle paye très cher, c'est des bateaux de 100 personnes, mais là vous allez voir du pays.
Ah,
vous allez débarquer aux escales, vous allez aller en Amazonie, vous allez aller en Alaska, vous allez aller dans des endroits où ces petits bateaux permettent de remonter les fleuves. Donc vous allez vraiment voir du pays.
Ah oui, je sais que...
Pardon.
Oui, je sais que sur le Ponant, on remonte l'Amazone. Sur le Levant, c'est absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir ou qu'est-ce qu'elle doit avoir, ce ou cette candidate, pour se dire, tiens, j'essaie de m'embarquer sur un bateau pour travailler? Il faut avoir d'abord un métier, il faut d'abord être bilingue, j'imagine.
Voilà, je pense que c'est le point fort de la belle province par rapport à la France, c'est que vous maîtrisez beaucoup plus l'anglais, ce qui n'est pas forcément le cas encore des Français qui ont du mal à pratiquer des langues étrangères. Il est effectivement impératif de parler l'anglais, il faut très bien parler l'anglais, il faut maîtriser un métier, il ne faut pas envoyer de candidature à une compagnie de croisière en disant « j'ai envie de partir sur un bateau », ça, ils ont horreur de ça, ils en reçoivent plein. Il faut dire « je suis pâtissier », il faut dire exactement ce qu'on veut faire sur le bateau et qu'on ait une formation qui soit en adéquation avec le métier que l'on demande. Mais il y a aussi des possibilités, c'est pour ça qu'il faut... Le titre, c'est les jobs à bord. L'idée, c'est pas de partir toute sa vie sur les bateaux, c'est de faire un break, c'est de faire peut-être un contrat, deux contrats, d'avoir cette expérience-là dans sa vie, sans envisager de faire une carrière maritime. Donc il y a des métiers qui ne demandent pas forcément une formation très aboutie. Je pense par exemple au gift shop, hein, une étudiante entre deux cycles d'études, si elle s'adresse au bon cabinet, qu'elle est sympa, qu'elle est volontaire, qu'elle a un côté un petit peu commercial, qu'elle parle bien anglais, elle pourra vendre des vêtements par exemple sur un bateau de croisière, parce que ces bateaux de croisière, je pense en particulier au Mega Ships, vous retrouvez tous les métiers qu'il y a sur un hôtel.
D'accord. Est-ce qu'on aurait besoin d'un animateur de radio sur le Queen Mary d'après vous?
Je suis sûr qu'il y en a un, parce qu'en fait, sur le Queen Mary, par exemple, il y a le premier spa embarqué. Donc, ils recherchent des esthéticiennes, tous les métiers de la beauté, et ils ont probablement une radio interne.
Ah, oui, la Cunard, etc.
Pour application.
Oui, je serais mieux que dans les métiers de la beauté. Écoutez, je trouve ça sensationnel. Dites-moi un mot aussi, parce que ça va renverser un peu notre auditoire. Vous dites aussi plateforme pétrolière, parce qu'il y a de l'emploi sur les plateformes pétrolières. Ce ne sont pas seulement des spécialistes. Là aussi, il doit y avoir des pâtissiers, des cuisiniers, peut-être des animateurs.
Alors, c'est vrai que le livre, il y a trois chapitres. Donc, avant tout, les métiers de la croisière, parce qu'on estime à 40 000 les emplois directs provoqués par la croisière en emploi embarqué. Donc, il y a véritablement du potentiel. Il y a un chapitre sur la plaisance, où là, c'est plus un peu des combines pour arriver à embarquer sur un yacht, pour faire du convoyage, des charters. Donc, c'est plus un microcosme d'initié un peu secret, où il faut connaître certains codes pour pouvoir arriver à embarquer avec... évidemment beaucoup moins d'opportunités, parce que c'est un marché moins large que celui de la croisière, et de manière un peu plus anecdotique pour les baroudeurs, les vrais baroudeurs des mers, la plateforme pétrolière avec l'odeur âpre des hydrocarbures et de la sueur, l'ambiance un peu virile de la mer démontée. Bon, ça aussi, on désacralise un peu certaines idées qu'il y avait sur le plateforme pétrolière, où c'est super dur, ambiance de testostérone, mais où on gagne des fortunes pas possibles.
Oui.
Non, on gagne pas autant d'argent que ça, et évidemment, on parle pas des métiers très techniques qui demandent des formations très pointues, comme pour la plaisance. Hein, on ne parle pas des officiers de marine qui auront fait des écoles maritimes et qui seront arrivés sur un voilier, pas par hasard.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils seront rentrés dans des écoles très en amont. Mais sur les plateformes pétrolières, il y a essentiellement la gestion des bases-vie, ce qu'on appelle la gestion des bases-vie. Donc évidemment, le personnel fait les 3-8, il dort à bord, donc il faut entretenir les cabines, il faut préparer la nourriture. Donc c'est essentiellement dans ce secteur-là qu'il y a des possibilités. Quand je dis que c'est mal payé, c'est quand même bien payé. Là aussi, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a des tournantes plus régulières. Vous faites en général 3 semaines sur la plateforme. Bon, ça dépend. Et dans le livre, on cite un certain nombre de...
De bateaux et de plateformes. Et je vais vous arrêter là-dessus parce que notre temps est déjà parti. Mais j'ai changé. Là, je ne vais pas le Queen Mary. Je vais prendre le Paul Gauguin. Le Paul Gauguin, bateau des croisières sous contrôle de la Radisson. Il fait la Polynésie. Alors, le salaire, 1200 euros brut pour un cuisinier. Beau temps, mer.
Je suis sûr que vous valez plus. Hein.
je pas trop.
Partez sur une autre compagnie. Moi, je vous recommande la Cristal.
Ah oui? Ah, ok, d'accord.
Sur la Cristal, sur la Silver Sea. Lisez bien les fiches croisières. Essayez de trouver celle qui vous permettra de gagner de l'argent, de voir du pays et de vous amuser et de pratiquer votre métier. Elle n'existe pas, je vous rassure, mais il y en a sûrement une qui se rapprochera de votre rêve et qui vous permettra d'abandonner Radio-Canada.
Ah oui, il n'y a pas de problème. Si de toute façon, si je n'abandonne pas, c'est eux qui vont m'abandonner, vous n'en faites pas. Mais, alors, Monsieur François Pont, merci encore. Le livre s'appelle, je le dis à nos auditeurs, alors si jamais vous allez le trouver ici chez Ulysse, bien sûr, le guide des jobs à bord, bateau, croisière, plateforme, et bien sûr, nous parlons à 600 millions de personnes, donc il est possible que vous soyez obligé de le commander, mais il n'y a pas de problème. Alors, commandez-le. Merci, Monsieur Pont.
Merci beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à mon travail.
Merci, au revoir, Monsieur Pont. Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors voilà, donc je le répète, le guide des jobs à bord. Vous voulez, Richard,
ça vous tente pas... de prendre un break pour aller sur un méga ship? oui, ça vous tente ça?
Mais c'est pas, je parle pas très bien l'anglais, moi.
C'est oui, ça, c'est vrai. Bon,
non, mais peut-être que je pourrais prendre.
Recalez-vous.
Non, mais si on faisait pendant un an votre émission sur un bateau, justement, toutes les fins de semaine et qu'on se promenait un peu à travers le monde, ce serait bien.
Ah, oui.
Sur le Queen Mary 2 en particulier.
Mais surtout vous, parce que le test, vous avez été bon, mais les autres sont cruchons pas mal. On va voir l'air de quoi. Bon, en tout cas, on va aller aux informations et on va revenir. Je vais vous donner d'autres détails avec M. Bruno Larose.
254-6011.
Oui. Qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, on commence tout de suite avec Bombardier dans les nouvelles. Ottawa a subi de fortes pressions de Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec pour qu'il convainque Bombardier de ne pas s'exiler aux États-Unis pour y construire son nouvel avion de 100 places. Le ministre fédéral des Transports, Jean Lapierre, a assuré qu'il fera tout ce qui est humainement et fiscalement possible pour convaincre Bombardier de rester, mais il fixe tout de même des limites.
C'est évident qu'on ne joue pas là, à bar ouvert et on ne participera pas à une ronde de surenchère.
À la recherche de capitaux pour mettre au point un appareil de 100 à 135 places, Bombardier est courtisé par la Grande-Bretagne et au moins 3 États américains qui souhaiteraient voir l'entreprise s'installer chez eux. Bombardier doit faire une recommandation à son conseil d'administration en janvier. Le président de la FTQ, Henri Massé, presse le gouvernement d'agir.
Là, il faut que ça accouche parce qu'effectivement, moi, je pense qu'on va tout perdre si les gouvernements n'agissent pas rapidement.
L'Agence métropolitaine de transport et le ministre des Transports de l'époque savaient très bien qu'il était impossible de réaliser le métro de Laval à l'intérieur des coûts prévus. C'est ce que révèle le rapport du comité d'experts mandaté pour se pencher sur les dépassements de coûts du projet. Le président du comité d'experts, Claude Boivin, estime que l'Agence métropolitaine de transport a fait preuve d'amateurisme lorsqu'elle a reçu une évaluation réaliste des coûts et qu'elle a tenté de les faire correspondre à ce que demandait le ministre. L'ancien ministre Ménard, maintenant député bloquiste, s'est vivement défendu. Il a soutenu que les évaluations du projet avaient grimpé après l'arrivée au pouvoir des libéraux.
Je suis étonné que personne ne réalise que tant que Mme Junka Adenau dirigeait les travaux, les soumissions étaient à l'intérieur de ses prédictions et que la hausse des coûts, c'est après qu'on lui ait retiré la construction. Que Mme Junka Adenau avait l'expérience de diriger les travaux, des grands travaux, et qu'ensuite on le donne à quelqu'un qui n'avait aucune espèce d'expérience, et puis soudainement, il y a un paquet d'évaluations qui monte. Puis, deuxièmement, il peut y avoir beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas, dans le milieu à ce que l'on montre les évaluations.
Le métro de Laval coûtera finalement 803 millions de dollars au lieu des 345 millions prévus au départ. Le projet de fermeture de 12 écoles dans la région de Laval suscite une opposition croissante. Selon la presse, les 5 députés libéraux provinciaux de cette ville, le maire de la ville, Gilles Vaillancourt, et la ministre responsable de la région de Laval, Michèle Courchesne, ont tous déclaré être hautement préoccupés par le projet de la commission scolaire de Laval. La porte-parole du maire Vaillancourt a indiqué que la ville cherche à attirer les jeunes familles et que les fermetures d'écoles nuisent à ce projet. Le maire Vaillancourt doit rencontrer incessamment le président, ou plutôt la présidente de la commission scolaire, Francine Charbonneau. Les fêtes religieuses musulmanes du Ramadan ont commencé hier et à cette occasion, la communauté musulmane de Montréal organise les toutes premières nuits montréalaises du Ramadan. À partir de demain et jusqu'au 13 novembre, 45 artistes et 150 heures de spectacle seront à l'affiche au restaurant libanais Le Crésus dès que la nuit sera tombée. Selon l'organisatrice Amina Douiri, le but des nuits montréalaises du Ramadan est de faire connaître autrement la culture et les traditions musulmanes et de montrer aux Montréalais que le Ramadan, pendant lequel les croyants doivent observer un jeûne du lever au coucher du soleil, est aussi une fête.
Oui, je veux dire, ils sont fin finaux, pareil. Ils attendent quand même qu'il y ait à peu près 12 heures de journée, 12 heures de nuit. Ils font pas ça en plein milieu de l'été où il faudrait pas manger de 5 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir.
Mm-hmm.
Hein?
C'est bien choisi.
C'est pas fou.
Non.
Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon arabe, de mon musulman que j'avais rencontré en Turquie, puis qui, je lui avais dit, c'était un bon musulman pratiquant, je lui avais dit, mais quand est-ce que tu vas aller faire le tour du tombeau du prophète? Alors il m'a dit, je vais y aller plus tard. Mais j'ai dit, pourquoi plus tard? T'es jeune, t'as des sous, tu peux y aller maintenant. Mais il dit, ça pose un problème, parce qu'il dit, il faut faire 9 fois le tour du tombeau du prophète en marchant, et après ça, on ne peut plus faire de péché. Il dit, comment je peux vendre mes tapis, moi? Ah, voyez-vous. Excusez-moi, je vous ai coupé votre dernière nouvelle, monsieur. Étais-tu bonne?
Elle est très bonne.
Bon, ben, on va l'écouter.
Oui, d'accord. Une vaste battue se déroule aujourd'hui en Montérégie pour retrouver le corps d'Anne Lapointe, cette femme de 42 ans, portée disparue depuis plusieurs mois et vraisemblablement assassinée par son ex-conjoint. En mai dernier, Christian Leclerc a affirmé avoir tué Anne Lapointe pour ensuite placer son corps dans un coffre qu'il a abandonné aux abords d'une route de campagne. L'homme affirme toutefois ne pas se souvenir où il a caché le coffre. Une centaine de bénévoles vont ratisser aujourd'hui un corridor de 70 km entre Marieville et Abercorn en passant par Cowansville dans l'espoir de retrouver la disparue.
Oui, merci beaucoup. Alors, au revoir et à la prochaine, monsieur.
Oui, à la prochaine.
Au revoir. Au revoir. Alors, je vous répète le titre du livre, le Job à bord, le guide des jobs à bord, mais il y en a un autre livre pour ceux qui veulent se promener sur des cargos, des bateaux de transport, comme Mme Grimaldi ou moi-même, si vous voulez monter sur un bateau à Montréal, vous savez, des beaux grands bateaux avec des conteneurs, puis traverser en Europe, eh bien, il y a un guide qui s'appelle le guide des voyages en cargo.
Ah, oui.
Ça aussi, ça existe chez Jean-Claude Lattès. Oh. Et vous pouvez, il y a la liste de toutes les compagnies, tous les bateaux, toutes les compagnies que vous pouvez solliciter si vous voulez monter à bord. Certaines compagnies sont très chères, d'autres pas chères. Il faut considérer évidemment que les 10 jours de traversée, c'est le voyage et non pas comparé avec un billet d'avion. C'est pas
non,
pensable.
Bien sûr. C'est que...
Voilà. Alors, donc, vous trouverez ça chez Ulé, c'est un peu partout. Bon, Mme Grimaldi, c'est pas à vous. On va parler de la météo avec Mme Christian d'abord.
Oui, pour vous dire que le ciel, il y a quelques éclaircies déjà, donc la pluie cesse ou cessera bientôt parce que ce sont les mêmes prévisions du côté des Laurentides aussi, en Estrie, la même chose, mais des éclaircies ensuite avec 70 % de possibilité d'averse en après-midi. Je regardais la dernière image radar. La grosse zone de précipitation est vraiment à l'est de chez nous.
Elle a doublé la deuxième place.
Oui, c'est cela. Du côté de Trois-Rivières... Québec. Mais je suis trop honnête. Hein. Si je ne l'avais pas dit comme ça, vous n'auriez pas pu rire de moi.
Non, mais vous en faites pas. J'ai fait le test hier. On a échoué les 4. Il n'y a rien que Richard qui a eu une bonne réponse sur 4.
Moi, c'est parce que c'était son dernier test, lui. Il fallait
oui, c'est ça, c'est
réponse.
Ça.
Excusez-moi, mon cher Richard.
J'ai besoin de vous.
Oui. Hein? Averse la nuit prochaine et demain, minimum 7 pour la nuit, maximum 9 demain, puis lundi, quelques gouttes encore. Et ça reste frais, hein? 8 degrés, on devrait avoir normalement ce temps-ci d'année, là, 13 le jour et 4 la nuit. Et il y a le soleil qui s'est levé à 7h11, tard, et qui se couche tôt à 18h07.
OK, qui est un des hommes les plus sexés du monde?
Ah, c'est Richard.
elle compense. Oui.
Eh bien, c'est le physicien Stephen Hawking. Vous connaissez Stephen Hawking, un génie et qui vit en fauteuil roulant. Il souffre de la maladie de Lou Gehrig. Il dit « Au fil des années, j'ai été élu au deuxième rang des personnalités les plus intelligentes du pays et j'ai même trouvé drôle d'être cité parmi les 10 hommes les plus sexés du monde. » Alors, c'était un test qu'on faisait et on a fait passer ce test à des jeunes, Madame Yeltsin, et un vrai test, là. Et les jeunes disaient que dans les 10 personnalités les plus extraordinaires, il y avait Stephen Hawking. Alors, ne vous découragez pas des jeunes. Voilà un homme merveilleux et qui a un courage inimaginable. et qui est un grand, grand cerveau de la science. Alors, j'ai vu ça dans le journal. Je voulais vous encourager, les jeunes. Là. Madame Grimaldi va parler. Après ça, on va faire de la musique.
Oui, ben, je vais vous parler d'abord du festival du film du Nouveau Cinéma, bien sûr. Hein? C'est le gros événement de la semaine et de la semaine prochaine aussi. À voir aujourd'hui, pour tous les cinéphiles, le nouveau Godard, notre musique, une réflexion sur la guerre.
Un nouveau Godard?
Oui, un nouveau Godard.
Ah, c'est géant.
À 12h30.
Y a-tu un nouveau Romère aussi?
Pas cette fois-là, mais il y a un nouveau Almodovar, et c'est son film le plus autobiographique, La Mala Éducation, La Mauvaise Éducation, l'éducation religieuse qu'il a reçue, bien sûr, sous Franco à l'époque, et c'est un hommage aussi au film noir, un film qui a ouvert le Festival des films de Cannes, et puis que vous verrez en salle, mais seulement à partir du mois de janvier, donc vous pouvez le voir maintenant, à 21h, comme une image, de et avec Agnès Jaoui, et bien sûr entouré de Jean-Pierre Bacri et de la petite grosse Marie-Lou Berry. Ben, parce que dans le film, elle joue le rôle d'une petite grosse qui, en principe, est con. Quoi?
Petite grosse.
Ben oui, mais c'est une comédie de mœurs sur la cruauté ordinaire face aux gens qui sont pas très bien. Enfin, que la nature n'a pas planté.
Vous m'appelleriez comment?
Elle a ravi, le film a ravi le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes cette année. Vous le verrez d'ailleurs aussi bientôt en salle. Il a été acheté. À voir. Merci. Darwin's Nightmare. On parlait dans les nouvelles tout à l'heure de ce qui se passe en Afrique. C'est un documentaire qui est très dénonciateur et très révélateur, réalisé par un Autrichien, Hubert Sauper. C'est présenté au cinéma du Parc à 13h30 aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez constater de visu qu'il y a un lien entre l'exportation de 500 tonnes par jour de perches du Nil pêchées dans le lac Victoria en Tanzanie, un rapport avec le trafic d'armes en Afrique. Vous voyez les avions cargo russes arriver quotidiennement. Un rapport aussi avec les effets du capitalisme sur la population, que 45-50 morts par jour du sida, la religion, la bondie, le condom, c'est péché, etc. Et puis, vraiment, ils crèvent de faim, imagine. Ils ont des richesses incroyables.
Merci, Francine.
Le peuple crève de faim.
Merci. Oui, non, mais alors, c'est où, à quelle heure, dites-le encore?
Ça, c'est à 13h30 au cinéma du Parc aujourd'hui.
Okay. Alors, on va entendre un extrait du disque de M. Lambert, qui va être avec nous tout à l'heure pour chanter, qui a libéré ses pieds de la bottine et qui nous présentera un disque qui viendra en studio. Tiens, Michel Coulombe est arrivé aussi. Tanguy, tu es arrivé, le coudon, lui, là.
Oui, je l'ai vu.
Ah, il vient d'en faire sa chronique, Eratum. Alors, un extrait du disque d'Yves Lambert.
Did it, 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 did it